Paris vous parle.
Le 25 mai 1960, sur l'antenne de France Inter, on évoque l'ouverture de l'instruction d'un immense procès à venir.
L'interrogatoire du tortionnaire Adolf Eichmann, ancien chef de la section juive de la police nazie, a commencé ce matin.
Adolf Eichmann, arrêté quelques jours plus tôt en Argentine par les services secrets israéliens, a été transféré à Tel Aviv.
Faut-il le rappeler, Eichmann était le criminel de guerre numéro 3, après Hitler et après Himmler. Et il est responsable de la mort de plus de 5 millions de juifs.
Eichmann fut le sinistre architecte nazi d'une déportation génocidaire.
Personnage sinistre, certes, personnage aussi curieux et très mal connu, en particulier en France.
En quoi le procès Eichmann a-t-il libéré la parole des anciens déportés ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Derrière la volée triomphale, il y a partout un glas pesant qui teinte. Écoutons bien, c'est l'heure des funérailles. De ceux qui n'en eurent point, assassinés dans les chambres de torture, ou qui, dans tous les Auschwitz et tous les Buchenwald, sont partis en fumée.
Jusqu'au milieu des années 60, les rescapés de la déportation ne se retrouvaient qu'entre eux, en vase clos. Soit au sein des amicales d'anciens déportés, comme Gisèle Guimau, l'ex-déportée communiste.
À la vie. Vous vous rendez compte que c'est la première fois qu'on fait un vrai repas ensemble.
Soit à l'occasion des commémorations officielles, sous l'égide du ministre Edmond Michelet, l'ex-déporté gaulliste.
Monsieur Michelet, ministre des Armées.
Rescapés de Dachau, mes camarades, nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer le premier anniversaire de notre libération.
Quant aux survivants de la Shoah, comme Denis Kahn, ils sont très longtemps restés en marge de la société, qui a préféré se tourner vers l'avenir plutôt que d'ausculter les blessures de la guerre.
Qu'ils vivent, soit, mais qu'ils se taisent, semblait nous dire le monde hors du camp.
Or, le procès Eichmann, en 1961, a changé la donne et a ouvert ce que l'historienne Annette Wiewiórka a appelé l'ère des témoins. Une ère où la parole commence à se déployer. Une ère où on cherche à comprendre ce qui s'est réellement passé. Autrement dit, une nouvelle étape dans l'histoire des déportés.
À vous qui m'écoutez, auditeurs fidèles de notre radio libérée, nous souhaitons que ceux d'entre vous qui ont été sinistrés retrouvent bientôt un toit et un foyer, et que bien vite se cicatrisent les blessures et que se relèvent les ruines.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Déportés. Septième épisode, Les Témoins.
Nous pénétrons maintenant dans l'enceinte du camp que nous allons visiter en essayant de vous en dépeindre aussi sobrement que possible l'austère et l'atroce tableau.
J'ai vu, alentour de ce camp d'Achao, des rescapés au visage transparent se traîner vers le soleil et tomber sur la route.
L'immense cortège des ombres qui survivait encore se leva sur ses jambes flagellantes.
Le 15, vers 1h de l'après-midi, nous avons vu arriver la première voiture de radio qui nous annonçait en trois langues, français, russe et allemand, que le camp se trouvait désormais placé sous le contrôle britannique.
On n'avait même pas la force d'être heureux.
Mais tous ceux qui ont été libérés à Auschwitz ont une seule volonté, parler pour qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz.
Billet. Une pièce d'identité. Vous pouvez faire la queue.
Le récit débute à Jérusalem, le mardi 11 avril 1961. Ce jour-là, c'est l'ouverture du procès Eichmann.
Inter, actualité.
Et France Inter a dépêché sur place son légendaire chroniqueur judiciaire.
Frédéric Potcher assiste à ce procès. Il vient précisément de nous appeler il y a quelques instants pour nous dire ce que fut cette matinée. Je lui cède tout de suite l'antenne. À vous, Jérusalem.
Dès 9h, l'audience est ouverte. Mais à 9h-10, nous avons vu Adolf Eichmann paraître dans cette espèce de cage de verre qui est à gauche de l'estrade. Cette cage de verre ressemble à une espèce de grand cockpit. C'est aigu, c'est pointu, tout comme Eichmann qui est aigu et pointu et dont le regard est en une espèce d'acier bleu.
Eichmann comparé pour 15 chefs d'accusation, dont ceux de crimes contre l'humanité et de crimes contre le peuple juif.
Les juges et le procureur sont en robe noire. Deux policiers se sont assis derrière Eichmann.
Adolf Karl Eichmann.
Et aussitôt, le président demande si Eichmann est bien Eichmann.
Jawohl,
a répondu l'accusé.
On peut rappeler qu'Adolf Eichmann est un nazi convaincu et un antisémite convaincu, contrairement à ce qu'il prétendra lors de son procès.
Olivier Wiewiórka, historien.
Adolf Eichmann a été l'un des très grands artisans de la solution finale. Il se présente comme un petit bureaucrate dénué de pouvoir. Non, c'est véritablement l'exécuteur des basses œuvres, en Hongrie notamment, en 1944.
Je me tiens devant vous, juge d'Israël, en tant qu'avocat chargé de l'accusation d'Adolf Eichmann. Mais je ne suis pas seul aujourd'hui. À mes côtés se trouvent 6 millions d'accusateurs.
Et aussitôt, c'est la lecture de l'accusation dont nous avons déjà parlé. On rappelle tous les crimes commis sur ordre d'Eichmann, les assassinats par le gaz, les fusillades collectives, massives même. Et c'est le vol, et c'est la spoliation.
Première question. En quoi ce procès Eichmann est-il spécifique dans le jugement des crimes commis par les nazis ?
Le procès Eichmann est différent du procès du Nuremberg dans la mesure où il n'est consacré qu'à la Shoah. Donc, bien entendu, la Shoah était présente à Nuremberg, mais on peut dire que l'abondance des crimes commis par l'occupant nazi et le régime nazi avait été si considérable que la Shoah n'avait pas été singularisée, n'avait pas été placée au fait des priorités. Là, au contraire, à Jérusalem, on va parler de la Shoah et on ne parle que de la Shoah. Et de ce point de vue, c'est un procès qui est tout à fait exemplaire parce qu'il montre aussi à un public allemand et international la singularité de la Shoah, une singularité qui était dans une certaine mesure, sinon niée, du moins oubliée. Le procès Eichmann a un énorme retentissement, d'abord parce que Eichmann est arrivé à Jérusalem dans des conditions rocambolesques, hein, il faut le rappeler, il a été enlevé par un commando du Mossad, il a été ensuite exfiltré. Donc tout cela, si vous voulez, flatte les imaginations.
En effet, Adolf Eichmann a été kidnappé par le Mossad en pleine rue à Buenos Aires, avant d'être exfiltré clandestinement vers Israël. Le procès Eichmann se tient donc à Jérusalem, et on perçoit très vite que c'est un rendez-vous crucial pour les déportés rescapés.
Le témoignage des rescapés lors du procès Eichmann à Jérusalem a pesé très lourd. Au fond, ces rescapés avaient pu s'exprimer, comme l'a montré ma sœur, Annette Wiewiórka, mais ils n'étaient pas entendus. Ici, au contraire, on a un face-à-face entre les bourreaux et les victimes, victimes d'ailleurs qui sont d'une très grande dignité et qui rappellent le calvaire, et le terme est faible, qu'elles ont enduré. Et donc, de ce point de vue, effectivement, nous sommes bien dans ce que ma sœur appelle l'ère du témoin, c'est-à-dire la période où les survivants de la Shoah, les rares survivants de la Shoah, peuvent s'exprimer et porter à la face de l'histoire leur témoignage et faire entendre leur voix.
Mashmoor Hamalek, quel est votre nom et prénom, s'il vous plaît ?
Valers Georges.
W-E-2-L-E-R-S.
À la barre de ce procès se succèdent des paroles de déportés que l'on se met enfin à écouter, dont celle de Georges Vellers, qui témoigne en français, en évoquant les convois d'enfants.
Chaque transport arrivait 2-3 jours après le précédent, et dans chaque transport, il y avait 1000 enfants et 250 personnes. Par conséquent, il y avait 4 transports qui ont transporté 4000 enfants.
Alors Georges Vellers, c'est un juif français d'origine russe qui a été dénaturalisé par Vichy.
Laurent Joly est historien.
Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce que Georges Vellers ne pouvait pas faire en 1945 au moment du procès Pétain, c'est-à-dire dire la vérité sur ce drame des enfants, ce crime dans le crime de Vichy.
Faute de wagons en nombre suffisant, les plus jeunes de vos enfants ne pourront pas partir aujourd'hui.
On a séparé des mères de leurs enfants, on les a déportés dans des convois séparés. On a fait ça nulle part ailleurs en Europe de l'Ouest, dans le cadre de la solution finale. Cette vérité-là, il ne peut pas la dire en 1945, mais il peut la dire en 1961 au procès Eichmann. Donc ça, je trouve ça très fort. C'est vraiment le début, là, du processus. On commence par les nazis et on va inévitablement en arriver à Vichy.
En 1945, Georges Wellers a voulu témoigner au procès de Philippe Pétain pour insister sur la dimension antisémite du régime de Vichy. Or, à l'époque, certaines personnalités de la communauté juive l'en ont dissuadé par crainte d'un antisémitisme ambiant. Mais 15 ans plus tard, en 1961, Georges Wellers saisit l'occasion du procès Eichmann pour mettre en lumière la collaboration du régime de Vichy dans l'extermination des Juifs d'Europe.
Des autobus gardés par des gendarmes de Vichy, avec des inspecteurs de police de Vichy. Les autobus entraient dans le camp même. Au milieu de la cour, il y avait un endroit qui était séparé par des fils de fer barbelés. Alors les autobus entraient dans cet endroit-là. Et en toute vitesse, on ordonnait à ces enfants de quitter les autobus. Parce que les autobus se suivaient à une cadence rapide. Il fallait faire place à des autobus qui étaient derrière. Alors ces malheureux enfants étaient complètement désorientés, désaxés. Ils quittaient les autobus en silence. Les plus grands tenaient dans leurs mains la main des plus petits. Et on les conduisait dans les chambres où il y avait tout simplement des paillasses par terre. Des paillasses sales, dégoûtantes et pleines de punaises.
Cette déposition de Georges Wellers, qui incrimine à raison le régime de Vichy, a des conséquences immédiates en France.
Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que vont vraiment commencer les falsifications des partisans du maréchal Pétain sur les Juifs. C'est 1961, parce qu'on sent bien qu'avec le procès Eichmann, inévitablement, on va parler des Français. Et Robert Aron, l'auteur de l'histoire de Vichy en 1954, parlait très peu des Juifs en 1954 dans l'histoire de Vichy. Et en 1961, il fait un article, Pétain et la question juive, un article publié dans une grande revue catholique qui va avoir une grande résonance. C'est le premier à systématiser toutes les thèses mensongères sur un Pétain qui, en fait, est un Vichy qui aurait pas commis de crimes, mais commis des fautes, certes, mais ces fautes ont amené à sauver les Juifs français. Donc vous voyez, tout ça est vraiment formulé en 1961. Donc on voit l'importance de ce moment Eichmann.
C'est donc au moment du procès Eichmann que les pétainistes commencent à nourrir cette théorie factice du moindre mal, selon laquelle le vieux maréchal aurait protégé les Juifs français. Un véritable mensonge.
La profonde philosophie politique du maréchal a été de consentir le mal pour éviter un mal plus grand encore.
Jacques Isorni, avocat de Philippe Pétain, 1976. 30
secondes. Et alors, non, attendez que je termine. Oui, et sur pour les Juifs, ça a été la même chose. Essayer de protéger le plus possible les Français, essayer de sauver le pied de vie, car il avait fait vraiment le don de sa personne à la France.
Par ailleurs, que peut-on dire de l'influence du procès Eichmann sur l'opinion publique ? Réponse de l'historienne Annette Viejorka.
Quand vous lisez les souvenirs des gens de ma génération, moi je n'ai aucun souvenir du procès Eichmann.
Vous aviez quel âge, Annette ?
J'avais, je suis né en 48, j'avais 13 ans. Voilà. Mais si je prends mon jumeau outre-Atlantique, qui est Art Spiegelman, dont les parents, ce qui n'est pas le cas des miens, sont les survivants.
Art Spiegelman, auteur new-yorkais, a publié la magistrale bande dessinée Maus en 1986.
C'est très intéressant, parce qu'Art Spiegelman dit « Tous les jours, on regardait la retransmission en direct du procès Eichmann. »
Caméra 3, prête. Caméra 4, prête.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'il se trompe. Un, c'était pas du direct. Parce qu'il n'y avait pas de direct à l'époque, il n'y avait pas encore les satellites. Deux, ce n'était pas tous les jours, puisqu'il y a un chercheur américain, Jeffrey Chandler, qui a étudié les diffusions du procès Eichmann.
Sur Eichmann, la 4.
Adolf Eichmann, levez-vous.
Mais ce qui est intéressant, c'est que lui s'en souvient comme ayant été tous les jours. C'est dire l'importance que ça a eu pour lui. Et il dit, c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose. Il n'est pas tout seul. Quand vous regardez chez les Américains, ceux de cette génération, de la génération des baby-boomers, c'est-à-dire de la mienne, qui se sont intéressés à la Shoah, c'est après le procès Eichmann. Donc, le procès Eichmann, c'est, comme j'explique, l'avènement du témoin. C'est une sorte de réconciliation des Israéliens avec les survivants. C'est la fin de cette espèce de doute sur le fait que ceux qui ont survécu, c'est qu'ils ont fait quelque chose de pas très joli. Donc c'est une réconciliation et c'est l'importance qui est donnée à la parole de celui qui a survécu. Et c'est aussi le récit séparé. C'est-à-dire Ben Gourion disait que Eichmann devait être le Nuremberg du peuple juif. C'est la première fois que pour le grand public, on publie un récit séparé de la criminalité nazie.
Ce procès Eichmann a permis de décortiquer la mécanique d'extermination mise en place par les nazis grâce à la parole des déportés rescapés. Le chemin s'ouvre enfin pour prêter attention aux victimes de la déportation. Le verdict du procès Eichmann tombe le 11 décembre 1961. Quel est-il ?
Le tribunal de Jérusalem jugeant Adolf Eichmann a déclaré ce matin l'accusé coupable sur 4 des 15 chefs d'accusation retenus contre lui par le procureur général. Ces 4 chefs d'accusation sont les plus graves et sont sanctionnés par la peine capitale. Reconnu coupable de crimes contre le peuple juif, contre l'humanité, coupable de crimes de guerre et d'avoir appartenu à des organisations criminelles, Adolf Eichmann est donc théoriquement condamné à mort.
Alors, Eichmann est condamné à mort et exécuté, alors que la peine de mort avait été interdite en Israël. Donc, une loi spéciale a été votée pour permettre l'exécution de ce bourreau.
Fixant le président du tribunal, pas un muscle de son visage n'a bougé, pas un geste n'a laissé apparaître la moindre émotion.
Un bourreau qui, Hannah Arendt définit comme, au fond, un bureaucrate de papier. Elle utilise le terme de banalité du mal. Et de ce point de vue, je ne suis pas persuadé que Hannah Arendt ait raison. On voit au contraire que Eichmann, loin d'être un simple bureaucrate exécutant sans état d'âme les ordres, est un nazi convaincu et un antisémite convaincu.
Quelques mois plus tard, le 31 mai 1962, la sentence est appliquée.
Eichmann, le criminel de guerre nazi responsable de l'extermination de 6 millions de juifs, a donc payé ses crimes. Il a été pendu cette nuit et André Chemama, depuis Tel Aviv, nous dit dans quelles conditions.
Adolf Eichmann a été pendu cette nuit dans la prison de Ramleh, près de Tel Aviv. 10 personnes ont assisté à l'exécution de celui que le tribunal de Jérusalem avait condamné à la peine capitale pour avoir organisé et réalisé l'extermination de 6 millions de personnes. Jusqu'au bout, Adolf Eichmann conserva un calme que l'un des rares journalistes présents à l'exécution qualifia de « surnaturel ». Devant les fonctionnaires, les gardiens et les journalistes qui l'entouraient dans la salle d'exécution, et alors qu'on lui passait la corde au cou, il prononça d'une voix calme. « Vive l'Allemagne, vive l'Autriche, vive l'Argentine, trois pays que j'ai aimés. Je salue ma femme, ma famille et mes amis. » À 23h58, un ordre retentit et la trappe s'ouvrit sous les pieds du plus grand criminel de l'histoire. Son corps fit une chute de 1 mètre et la mort fut instantanée. Conformément à la loi, le corps est resté pendu une heure après le constat du décès. Ce matin à l'aube, un communiqué officiel annonça que la dépouille d'Adolf Eichmann a été incinérée à bord d'une embarcation de la police et ses cendres jetées en haute mer. Ici André Semama à Tel Aviv, Radiodiffusion Télévision Française.
Quand débute le procès Eichmann ? Au printemps 1961, Edmond Michelet, notre premier personnage, est devenu ministre de la Justice dans le gouvernement de Michel Debray.
Monsieur le Premier ministre, la présentation de votre ministère aura lieu quand ?
La semaine prochaine, jeudi probablement.
Un poste prestigieux dans la carrière politique de cet ancien déporté. Mais être garde des Sceaux en pleine guerre d'Algérie s'avère très compliqué.
Vive l'indépendance ! Vive l'Algérie ! Tahia al-Jazair !
D'autant plus qu'en juin 1960, Edmond Michelet, survivant de Dachau, participe au rétablissement de la peine de mort pour des raisons politiques, une aberration pour un ancien déporté résistant. Alors, comment l'expliquer ?
Rude question, à la fois humainement très difficile et je dirais techniquement très complexe.
L'historien Laurent Douzou.
Parce que ça oblige, mais on ne peut pas le faire longuement, à entrer dans les arcanes du pouvoir pendant la guerre d'Algérie. Quand on dit que le 4 juin 1960, une ordonnance rétablit la peine de mort en matière politique, en général on ajoute « Edmond Michelet, ancien de Dachau, est l'auteur de cette ordonnance ». Quand vous regardez de près l'ordonnance, elle est signée par le général de Gaulle, chef de l'État, par le Premier ministre, par le ministre de la Défense, Pierre Messmer, par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Edmond Michelet. Qu'est-ce que j'essaie de dire à travers ça ? J'essaie pas de dédouaner Michelet. Il y a une tension chez lui toujours entre le poste qu'il occupe et la foi qui est la sienne. Et par exemple, son combat ininterrompu pendant la guerre d'Algérie contre la torture, quels que soient les postes qu'il occupe.
Allez-y, caporal.
Il y a une tension entre cet homme-là et le fait d'être garde des Sceaux et de devoir signer une ordonnance. Alors, cette ordonnance, en fait, pourquoi je disais qu'elle est complexe juridiquement ? Parce qu'elle clarifie et rend beaucoup plus sévère des mesures qui étaient appliquées antérieurement. C'est pas à partir du 4 juin 1960 que la peine de mort s'applique. La peine de mort s'applique en Algérie depuis le début de la guerre, de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, c'est-à-dire depuis 1954. On estime qu'il y a eu, en Algérie, environ 200 exécutions. C'est quand même pas rien.
Ici, Alger, RTF.
Et pour la seule année 1957, près d'une centaine.
Alger a appris ce matin de bonne heure l'exécution de 5 terroristes.
Ce qui est vrai à Alger, l'est aussi à Oran, où après l'exécution du terroriste responsable de la mort de 4 personnes dans un cinéma de Marnia.
Certes, la France, par scrupule humanitaire, aura attendu 20 mois pour châtier deux des condamnés de droit commun qu'on ne saurait en aucune façon assimiler à des combattants.
Alors on dira, mais c'était pas la peine politique. Enfin, qui était condamné à mort ? Des combattants du FLN. Donc qui étaient des terroristes, puisqu'il n'y avait pas d'état de guerre. Enfin, on entre justement dans toute la complexité de la manière dont, à l'époque, on voyait les guerres d'Algérie, dont le gouvernement la voyait.
Ici Alger, à vous Paris.
Mais, vous voyez que si on présente les choses comme Michelet, étonnamment, rétablit la peine de mort en matière politique le 4 juin 1960... On va vite en besogne.
Edmond Michelet est tiraillé. D'un côté, il souffre de voir de jeunes Algériens prisonniers dans des camps d'internement.
Écarte les bras !
Ça lui rappelle Dachau.
Regarde-moi en face ! Regarde-moi en face, je veux que tu me regardes dans les yeux quand tu me parles ! Sale petit menteur !
Mais de l'autre, il refuse de voir la France quitter totalement l'Algérie. Michelet imagine donc une Algérie algérienne qui demeurerait sous influence française.
Et c'est ce qui va l'amener d'abord à multiplier les contacts, d'ailleurs souvent à la demande du général lui-même, avec les dirigeants du FLN ou avec les membres du FLN qui sont dans les prisons.
Jean Charbonnel, ancien ministre gaulliste, 1988.
Car sa grande idée, et c'est là qu'on retrouve la préoccupation du patriote, c'est que les détenus actuels seront les dirigeants de l'Algérie de demain. Et qu'il agit, en étant humain avec eux, à la fois de manière à satisfaire sa conscience de chrétien et en même temps l'intérêt de la France.
Durant la guerre d'Algérie, Edmond Michelet est en proie à un authentique conflit intérieur.
Michelet a toujours pris soin d'essayer de contrôler le caractère impitoyable de la guerre qui se menait. Par exemple, en ayant à son cabinet de ministre de la Justice garde des Sceaux, Joseph Revan et Gaston Josselin, qui sont deux anciennes Dachau et qui sont à l'évidence des gens qu'on pourrait cataloguer de gauche et qui feront fuiter des informations sur la torture alors qu'ils sont membres du cabinet d'Edmond Michelet. Et ça vaudra finalement à Michelet d'être évincé du gouvernement en 1961. Alors évincé, avec tous les honneurs dus à son rang. On ne le renvoie pas comme un malpropre, mais enfin, on l'évince.
Politique intérieure, c'est évidemment du remaniement ministériel qu'il est question ce matin dans tous les cercles politiques.
Archives RTF, août 1961.
Ceux qui s'en vont d'abord, M. Michelet, garde des Sceaux, M. Rochereau, ministre de l'Agriculture, et M. Lecourt, ministre d'État.
Le 24 août 1961, Michel Debré se sépare de son garde des Sceaux. Michelet est nommé au Conseil constitutionnel, jugé trop sensible pour exercer les fonctions de ministre de la Justice.
Michelet sera souvent en porte-à-faux dans ses postes ministériels. Parce que quand vous êtes ministre, vous êtes tenu à une solidarité gouvernementale. Et comme ancien de Dachau, il a quand même une fibre humaine extraordinairement développée. Et il dit par exemple que quand il voit côte à côte un gardien et un prisonnier avec des menottes, sa sympathie va immédiatement au prisonnier avec des menottes. Vous voyez, il y a quelque chose de transgressif dans l'expérience qu'il a vécue. Et c'est difficile d'être transgressif et ministre.
Le ministre Edmond Michelet et la magistrate Simone Veil ont fait transférer vers Paris, à la barbe des militaires, les prisonnières algériennes en danger de mort dans les prisons d'Alger. Mais s'agit-il d'un geste sanitaire s'inscrivant dans une réforme pénitentiaire ou d'un geste éminemment politique ?
Debré a parlé en termes très durs de Michelet. Quand il lui écrivait, il lui parlait d'un régime de faveur donné à certains prisonniers, mollesse et indulgence. En fin de compte, Michelet était-il un grand naïf ?
Non, je crois pas du tout.
Simone Veil, 1999.
Je ne dirais pas naïf, mais pur. Pur et tellement engagé pour ses convictions qu'il était capable, justement, d'affronter certaines accusations, car c'est presque ça, et d'être considéré comme quelqu'un qui était trop mou, trop faible, qui risquait peut-être de se laisser berner, mais je crois qu'il l'assumait complètement, et qu'il était très, très engagé pour une voie de paix et de réconciliation. Et même avant ça, pour traiter les gens de façon humaine. Et ça, je crois que nous avons, nous-mêmes, en département, tellement souffert de l'humiliation. On parle toujours des souffrances physiques, de ce que ça représentait. Je crois que l'humiliation, c'est ce dont on se souvient beaucoup plus. La souffrance physique, on l'oublie. L'humiliation, on l'oublie jamais.
Edmond Michelet est très hostile aux pratiques de la torture en Algérie par l'armée française.
Toi, déshabille-toi. J'ai dit déshabille-toi !
Une séquelle de la vérole nazie, dit-il en 1959. Une hostilité partagée par de nombreux anciens déportés, comme en témoignait la survivante de Ravensbrück, Germaine Tillion, en 1975.
Nous nous sommes à ce moment-là consultés avec un certain nombre de Français, anciens résistants, disons patriotes, bons sujets. Nous ne cherchions pas du tout la bagarre, nous voulions exclusivement arrêter la torture. Ce qui nous a paru le plus efficace fut de déclencher une enquête internationale dans les prisons et les lieux de détention algériens. Ce qui fait que nous avons su avec certitude exactement tout ce qui se passait. Pas tout, mais disons beaucoup. Suffisamment pour être consternés.
Enfin, la torture pratiquée par des Français en Algérie a modifié le regard des anciens déportés sur le peuple allemand.
Au départ, le nazisme, c'était l'Allemagne. Les Allemands étaient nazis, ça allait de soi. Les Allemands ne pouvaient être que nazis.
L'historienne Claire Andrieux.
Et pour Germaine Tillion, j'en suis sûre, la guerre d'Algérie a été un choc et a déclenché une réflexion sur les capacités des Français aussi à se comporter mal. Donc la connaissance de la torture en Algérie a fait évoluer Germaine Tillion, parce qu'elle le dit explicitement dans la parution 1973 de son Ravensbrück. Elle dit « Je n'écrirai plus que les Allemands étaient des nazis par définition. »
En Allemagne, c'était la Gestapo. En Espagne, la Securidad. Puis ici, on appelle ça le détachement opérationnel de protection.
Oh, faut pas pousser. La Gestapo, elle torturait les gens.
Et tu crois que l'armée française, elle torture pas les gens ?
C'est dégueulasse ce que tu dis !
T'as jamais entendu parler de la Gégène, toi ?
Lorsqu'Adolf Eichmann est exécuté, en mai 1962, Denise Kahn, survivante d'Auschwitz, vit en Hollande depuis 15 ans déjà et elle a 35 ans. Denise, notre deuxième personnage, a donc quitté Vérac dans le Lot, où elle s'ennuyait sévèrement, pour rejoindre sa cousine à Velp, aux Pays-Bas. Et après la mort soudaine et brutale de sa cousine Etty, Denise Kahn a épousé le mari de la défunte en 1953.
À partir de ce mariage, elle a vécu les plus belles années de sa vie.
L'historienne Zoé Grimbert.
Non seulement elle épousait un homme qu'elle aimait, mais surtout elle découvrait la liberté. Elle découvrait le fait d'avoir de l'argent pour elle, de ne pas être dépendante, mais en plus, lui, lui donne une grande confiance en elle. Ça a l'air d'être un homme moderne qui la laisse prendre sa place de femme, qui n'est pas réduite au foyer, vivre sa vie, exprimer ses opinions. Et donc, elle découvre cette liberté avec beaucoup d'amour. Ils ont un fils l'année après le mariage, donc en 54. Un fils qu'ils appellent, c'est important, donc Robert, et en deuxième prénom, Armand, et troisième prénom, Sylvain. Armand, c'est le nom d'un de ses frères décédés. Sylvain, c'est le nom de son père décédé. Et donc, elle avait l'impression d'avoir un peu bouclé la boucle. Elle a créé son noyau familial et vit des années très heureuses.
Donner à son fils les prénoms de son père et de son frère assassinés à Auschwitz, c'est une manière pour Denise Kahn de survivre aux violences du passé.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que son frère a fait la même chose. Son frère, donc, qui s'est marié en France, lui a appelé... il a eu une fille, un garçon, une fille qui s'appelle Suzanne, du nom de leur mère, et un fils qui s'appelle Sylvain, du nom du père. Donc ça, c'est un peu une tradition hein, de donner le nom des disparus assassinés dans les camps, et en même temps, c'est recréer une génération. Et c'est donner vie après la destruction que les nazis voulaient de ce groupe. Donc c'est un message d'espoir.
Si le procès Eichmann a ouvert l'ère des témoins, Denise Kahn, elle, n'a pas attendu 1961 pour évoquer ses souvenirs.
Elle a beaucoup parlé. Elle a notamment beaucoup parlé à son mari et ses trois enfants, donc les deux enfants de son mari et le sien. Donc elle n'a jamais cessé de parler. En revanche, son frère n'a d'abord jamais parlé. Les enfants étaient partis de la maison et il est retombé sur un camarade de déportation qui l'a conduit à reparler de tout ça. Et à ce moment-là, le frère de Denise s'est mis à témoigner et lui à entretenir, à aller dans des écoles, à faire des vrais témoignages, qu'elle n'a, elle, jamais fait.
Est-ce que vous arrivez à aller dans les écoles pour témoigner ?
Oui, mais il n'y a pas tellement longtemps, il y a 15 ans, ça.
André Kahn, frère de Denise, 2005.
D'ailleurs, les deux premières fêtes que j'ai faites, je n'ai pas fini, je suis parti. Et là, ma fille, elle me dit, papa, il faut que tu continues. Il faut. Tu nous l'as pas raconté à nous. On le sait quand même, pas les autres, mais il faut que tu racontes à ceux qui n'ont pas vécu et ceux qui ne savent pas. Donc, ton devoir, c'est d'aller à l'école, de leur raconter.
C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui témoigner, c'est parce que c'est votre devoir ?
Oui, c'est mon devoir, mais qui me fait mal. Je vous dirais que ça fait 8 jours que je dors mal, d'avoir de venir ici. Et cette nuit, j'ai presque pas dormi. Hein.
Donc c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment ce décalage entre les deux. Lui a gardé son matricule, son tatouage.
176 267.
Et elle, très tôt, avait fait enlever son tatouage tout en parlant constamment.
Témoignage de Denise Swapkan, 2013. André a toujours conservé son matricule, alors que j'ai fait enlever le numéro 76 217. Je ne veux pas traverser la vie en étant tatouée comme une bête. Ce numéro ne fait pas partie de moi. En l'enlevant, j'ai supprimé la guerre de mon système.
Et vous repensez des fois à cette époque, à Auschwitz ou à Bergen-Belsen ?
J'y pense souvent parce que j'en parle beaucoup, mais comme si c'était quelqu'un d'autre.
Denise Kahn, 2006.
Et je crois que c'est bien. Autrement, je crois qu'on ne peut pas survivre quand vraiment... Parce qu'une fois, je me suis dit, je vais quand même me rappeler de plein de choses. Mais c'est terrible, c'est affreux. Alors on ne veut plus vivre. si on pense vraiment l'idée que la maman a été gazée, que la chambre à gaz, que mes deux frères et mon père ne sont plus là, c'est quelque chose d'affreux.
Donc on essaie d'oublier pour continuer à vivre.
Ben oui, ouais.
Elle dit à plusieurs reprises, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui ai vécu ça. Et donc, je maintiens cette distance, et donc ça me permet d'en parler. Et elle raconte quand même un moment où elle a cru craquer. C'est quand son mari est mort, dans les années 80. Après sa mort, évidemment, elle est en deuil, c'est l'amour de sa vie. Et elle raconte qu'à ce moment-là, elle a des moments d'angoisse, des pensées intrusives sur le camp, et qu'elle a eu le sentiment de devenir folle et de sombrer. Et qu'elle a eu vraiment ce moment de bascule où elle s'est dit « Je peux retomber dans l'expérience du camp ». Et en fait, elle a tout fait pour ne pas que ça arrive. Et elle a réussi à reprendre le dessus sur ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est un moment de grande vulnérabilité, qui est celui de la perte de l'homme qui avait 18 ans de plus qu'elle. Elle dit qu'elle a cherché sans doute en lui une forme de protection, de figure un peu... si ce n'est paternel, mais au moins une figure rassurante dans sa vie. Et au moment où cet homme disparaît, c'est comme si il se brisait quelque chose en elle et que la vulnérabilité reprenait le dessus. Mais finalement, elle a réussi à toute sa vie ne pas sombrer. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'a pas ressenti le besoin de consulter un thérapeute, un psychologue, qu'elle a vécu sa vie comme si ce n'était pas elle. C'est pas la seule à le dire, cela dit. Quand un nombre de déportés le disent, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait vécu ça.
Vous en rêvez jamais ?
Oh si, je rêve surtout de mes parents. Je rêve quand je pense dans la journée. Mon père, parce que j'ai les photos partout. Et quand je les vois comme ça, alors je rêve même d'Alsace. Je vois la maison, je vois tout. Et c'est bien ça. Ça fait du bien de les revoir comme ça. Je trouve que ça me fait du bien. Ouais.
Après le procès Eichmann, l'opinion publique française commence à prendre conscience de la spécificité de la Shoah. Et 10 ans après l'exécution du bourreau nazi, surgit en France une polémique. Nous sommes en 1972, et lors d'une conférence de presse du président Georges Pompidou, un journaliste lyonnais lui pose une question.
Monsieur le Président, les résistants de la région Rhône-Alpes ont été péniblement surpris d'apprendre que Paul Touvier, qui s'était tristement illustré dans notre région et qui a été condamné 2 fois à mort, avait bénéficié d'une grâce présidentielle.
Paul Touvier, le chef de la milice à Lyon sous l'occupation nazie, chasseur de résistants et de juifs, a donc été gracié par le président de la République. Voici la justification de Pompidou.
Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux ? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient ? Et je ne dis pas ça par calcul politique, je le dis par respect de la France.
Ça va provoquer un tollé chez les associations d'anciens résistants, de rescapés des camps évidemment, mais d'anciens résistants relayés par les opinions publiques.
L'historien Tal Brutman.
Donc c'est vraiment les opinions publiques qui ne veulent pas qu'un voile pudique soit jeté sur cette période. Et oui, il faut en continuer à solder les comptes. Donc l'affaire Touvier va durer jusqu'au début des années 90, mais on va voir le procès Barbie.
Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît.
Tout ça s'inscrit dans cette phase-là où les opinions publiques sont prêtes à entendre, elles s'y intéressent, et donc le sujet va être intelligible et entendu.
Avec ce brouillard qui se dissipe doucement, la perception de ce qui s'est passé en France sous l'occupation s'éclaircit.
La Shoah est devenue quelque chose de reconnu par les opinions publiques vraiment très tard. C'est vraiment les années 80, le moment où il va y avoir un basculement. Mais on peut voir que ça irrigue les cultures populaires. Vous avez des grands films qui restent grands parfois, comme par exemple Marathon Man avec Dustin Hoffman.
Les deux types que j'ai rétamés travaillent pour un dénommé Christian Zell. Ce nom vous dit quelque chose?
Non.
Il dirigeait le bloc expérimental à Auschwitz, où on le surnommait Der Weissingel, ce qui veut dire l'ange blanc à cause de sa masse de cheveux argentés.
Donc la Shoah commence à être évoquée très largement, y compris par les studios hollywoodiens. Si c'est fait par les studios hollywoodiens, on voit que ça commence à intéresser l'auditoire. C'est pas parce que Hollywood parle de la Shoah que le public s'y intéresse, c'est plutôt le public s'y intéresse, donc Hollywood se dit c'est le moment où on peut aborder cela.
Au rayon de la diffusion culturelle, un feuilleton télévisé américain va profondément marquer les esprits quant à la réalité de la Shoah.
Le programme de la soirée sur Antenne 2 sera peut-être l'événement télévisuel de l'année.
Nous sommes le 13 février 1979 sur Antenne 2.
Holocaust sera à partir de ce soir présenté à la France entière. Holocaust, c'est ce film réalisé par des Américains, une série sur le génocide des Juifs durant la période nazie. Un film qui a bouleversé les États-Unis lors de sa diffusion et plus récemment l'Allemagne. Quelle sera la réaction du public français? Nous le saurons dès demain matin. Mais en avant-première, je vous propose de voir tout de suite un extrait.
Déshabillez-vous entièrement. Vous allez prendre une bonne douche. Les mères avec leurs enfants, elles les prennent dans leurs bras, qu'ils aspirent profondément.
La désinfection ne prend que 10 minutes. Dépêchez-vous. Avancez, avancez.
Holocaust, une série au succès mondial qui remue les mémoires, mais qui coexiste avec un autre phénomène qui trouve ses racines à la fin des années 60.
En 68, la première thèse en Sorbonne sur le système concentrationnaire est soutenue.
Claire Andrieux.
Et l'auteur affirme que les chambres à gaz n'ont pas existé dans l'Ouest. Ce qu'on appelle l'Ouest pour les camps, c'est les camps sur territoire proprement allemand. C'est-à-dire, ce sont les camps qui sont remplis de résistants ou d'asociaux ou de toute personne considérée comme à éliminer par le nazisme.
Disons Dachau-Buchenwald,
voilà,
par exemple.
Et cela fait réagir les anciens déportés qui, eux, ont vu la chambre à gaz de leur camp, quand il y en a pas partout, et dont, dans le cas de Germaine Tillion, la mère a été gazée. Et Germaine Tillion republie son Ravensbrück, augmenté en 73. Par ailleurs, de nouveau en 78, là des négationnistes, on peut dire patentés, avec Robert Forisson, lancent la bonne nouvelle, entre guillemets, que les chambres à gaz n'ont pas existé, alors de manière générale.
C'est à propos donc de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet sur lequel on ment beaucoup.
Robert Forisson, 1987.
Mais le plus gros de tous les mensonges me paraît être celui de la prétendue extermination des Juifs et des prétendues chambres à gaz homicides.
Écoutons cette archive en longueur. On n'en a jamais l'occasion.
Pour vous, tout cela n'a pas existé.
Il a existé une persécution des Juifs. Il a existé des déportations, des camps de concentration, qui sont d'ailleurs à comparer avec toutes les déportations qui ont pu avoir lieu ailleurs. Les camps de concentration, c'est malheureusement une banalité. Les bagnes de ce genre sont courants. Hitler et les Juifs se sont fait la guerre. Beaucoup de Juifs sont morts, beaucoup d'Allemands également.
Forisson tient des propos intolérables, immondes.
Alors, il y a ce qui est vrai et puis ce qui est faux. Il y a les vraies souffrances et puis il y a celles qu'on invente.
Forisson veut instaurer une autre vérité. Un mensonge donc, une tactique bien rodée à l'extrême droite.
Et cette histoire de camps dans lesquels on aurait mis les gens pour les tuer, c'est une histoire. Quant aux chambres à gaz, il ne faut pas les confondre avec les fours crématoires. Les fours crématoires, on y met des cadavres pour les incinérer. C'est indispensable là où, par exemple, il y a des épidémies. Et c'était le cas. Les chambres à gaz, c'est un endroit où on aurait mis les gens pour les tuer, notamment, dit-on, avec du zyklone. Le zyklone est un insecticide. Il a été créé après la guerre de 14. Il existe encore aujourd'hui. Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé des poux.
Rappelons qu'à peu près 1 million de Juifs ont été assassinés dans les chambres à gaz à Auschwitz.
Les chambres à gaz sont une impossibilité chimique. Il est impossible de gazer les gens comme on nous le raconte.
Face à l'apparition de ces propos négationnistes portés par Robert Forisson, les réactions sont vives et immédiates.
Et là, les déportés de la résistance produisent un livre très intéressant qui s'appelle « Chambre à gaz, secret d'État ». Et c'est une entrée dans l'histoire des camps que je trouve excellente, tout à fait concrète. C'est une analyse de la technique des chambres à gaz, camp par camp. Donc, à l'ouest, il y avait des chambres à gaz dans certains camps, comme à Mauthausen et à Ravensbrück, mais il y avait aussi des chambres à gaz dans les instituts d'euthanasie, qui au départ étaient spécialisés, si l'on peut dire, pour gazer les handicapés physiques et mentaux.
Jeanne, nous avons une patiente pour Adamar. Vous les prévenez.
Adamar?
Un hôpital pour les problèmes mentaux.
Excusez-moi, mais elle sera bien traitée?
Oui, oui, dans les limites que nous impose cette économie de guerre, évidemment.
Mais qui ensuite ont servi à gazer les déportés un peu fatigués. Je parle par euphémisme. Et il y a donc une technique du gazage qui est étudiée là, vraiment de manière transversale, et qui permet un progrès des connaissances en réaction au négationnisme.
Le poison négationniste conduit les déportés dans leur ensemble à prendre la parole dans le débat public. Et c'est par nécessité morale que Gisèle Guimau, notre troisième personnage, rescapée de Ravensbrück, décide de devenir témoin.
À partir du moment où des gens ont nié cet épisode du XXe siècle, on niait les camps de concentration et pire encore les chambres à gaz, il fallait que nous, non seulement on parle, mais on hurle notre vérité.
Gisèle Guimau, 2001.
Il fallait qu'on fasse savoir que c'était vrai, que ça avait vraiment existé et pourquoi c'était arrivé. Parce que le témoignage, à mon avis, il est important non pas seulement si on raconte le crime, mais pourquoi ça a été possible. Ça, on peut le dire, ça. C'est très, très important. Donc, à un moment, on s'est mis à parler.
Au début des années 1980, ancienne déportée et jeune retraitée, Gisèle Guimau, la soixantaine, veut se faire entendre.
Elle fait le tour de France, des écoles, des collèges, des lycées, pour raconter ce qui s'est passé, son expérience.
L'historien Fabien Archambault.
Alors, elle savait que ça devrait arriver, hein, puisque en fait, elle a gardé deux choses de sa déportation en Allemagne. Donc, la médaille que lui aurait donnée son père quand elle avait 2 ans, donc un père qu'elle n'a quasiment pas connu, le père biologique, l'immigré italien, et un petit carnet où elle a noté tout ce qui se passait pour justement ne jamais oublier, essayer de garder une trace de ce qu'elle avait vu. Et aussi une sorte de mémoire, hein, d'un devoir vis-à-vis de ses camarades qui sont mortes, notamment Odile, qui lui avait dit « il faut que tu aies tout vu pour raconter et pour donner mauvaise conscience à ceux qui n'ont rien fait pour éviter cela ». Alors il y a ça, plus après le discours négationniste qui pour elle est insupportable. Alors, pour ça, il y a des épisodes qu'elle raconte dans son autobiographie, dans un recueil de poèmes qu'elle publie en 2004, des mots contre l'oubli. Elle se souvient, en janvier 1944, donc au moment de la déportation des Juifs de Hongrie, d'une scène particulièrement difficile à laquelle elle a assisté, qui est, à Ravensbrück, on ne gazait pas, donc on les envoyait à Auschwitz, de séparer les enfants des mères de Hongrie, pour envoyer les enfants à Auschwitz, dans la chambre à gaz. Et elle se souvient d'un petit garçon de 4 ans qui s'appelait Binz, qui jouait au football. Et les capots, parce qu'en gros, il fallait que tout reste calme avant l'arrivée des camions, jouaient avec lui, lui caressaient les cheveux, etc., avant de le traîner dans la boue par les cheveux pour le jeter dans le camion. Et donc là, elle sort ce poème.
Aux petits-enfants de Pichipoy, écrit en décembre 1987. Ils disent aujourd'hui que ce n'était pas vrai, que nul ne respira sous les cieux d'Auschwitz ou ceux de Treblinka, le zyklon qui tuait. Mais que sont devenus, poursuivis par la mort, tous ces enfants perdus qui s'en allaient en pleurs, une médaille d'or accrochée sur le cœur.
Où ont-ils disparu, ces petits-enfants juifs et ces enfants de tziganes que nul n'a plus revus? Vous qui dites aujourd'hui que ce n'était pas vrai.
Dites, Mais dites-nous, que sont-ils devenus ?
Donc voilà, c'est ça, son livre, ses interventions, c'est comment est-ce que vous pouvez oser dire que ça n'a pas existé ?
Dans cette nouvelle ère des témoins, Gisèle Guimau a aussi une pensée pour les déportés, qui n'arrivent toujours pas à parler.
Alors, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui peuvent témoigner, et puis ceux qui peuvent pas. Ça, c'est physique. Il y a des camarades. Il y en a un, justement, qui a été déporté à l'âge de 3 ans avec sa mère, son frère et sa sœur. Ils sont revenus tous les quatre par un miracle extraordinaire, qui vient de faire un doctorat. Il écrit qu'il a jamais pu en parler. Il a pu heureusement écrire, mais il ne peut pas parler. Et puis ceux qui ont un besoin presque maladif de parler et de s'exprimer, en somme, c'est pour guérir de la même maladie. C'est pour guérir du camp.
Au début des années 1990, 30 ans après le procès Eichmann, on a pu avoir le sentiment qu'on commençait à guérir des camps, que la mémoire des déportés était sauvegardée et que l'horizon s'était dégagé.
La chute du mur, l'effondrement du communisme.
L'historienne Annette Wiewiórka.
Cette période bénie, on peut le dire maintenant, où on croit que la démocratie va s'installer partout, que le libéralisme économique va triompher et que les droits de l'homme seront là partout et où on pense que c'est en enseignant ce qu'a été l'Holocauste, comme disent les Américains, ou la Shoah, comme on dit en France, qu'on va réussir à arrimer définitivement les droits de l'homme. Et tout ça va voler en éclats, de mon point de vue, le 11 septembre 2001, avec l'attentat contre les tours jumelles et le début du monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais c'est dans ces années-là que tout se met en place. Des instances internationales pour s'occuper des archives, enseigner ce qu'a été l'histoire des Juifs. Enfin, c'est vraiment des années extrêmement importantes. Et avec l'espoir que tout ça mettrait fin à l'antisémitisme, au racisme. Et on voit très bien que ces espoirs n'ont pas porté tous les fruits qu'on aurait aimés.
En conclusion de ce 7e épisode, retenez d'abord que le procès Eichmann a ouvert une ère nouvelle dans laquelle les témoins de la déportation et de l'extermination des Juifs ont enfin pu prendre toute leur place. Il aura fallu 15 ans après la libération des camps pour que les sociétés occidentales commencent à tendre l'oreille pour écouter les déportés. Mais cette parole des survivants a été très vite remise en cause par les négationnistes.
Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé des poux.
Poussant les rescapés à intervenir davantage dans le débat public au nom de celles et ceux qui sont morts dans les chambres à gaz. À l'aube du 21e siècle, en 2006, Gisèle Guimau avait une conscience aiguë de la situation.
Aujourd'hui, beaucoup d'anciens déportés, conscients d'avoir été les défenseurs des libertés et de la vie, conscients aussi de n'avoir plus très longtemps à s'exprimer, sont atteints d'une sorte de frénésie du témoignage.
20 ans plus tard, en 2025, les déportés ont quasiment tous disparu.
Bientôt, demain, la parole ne sera plus qu'aux historiens. Espérons qu'il restera un petit écho de leur voix.
Comment entretenir l'héritage des déportés après la mort des derniers témoins ? C'est l'horizon du prochain épisode. Les déportés, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Irène Ménahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Lecture, Bérangère Varluzel. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. Prochain épisode, La mémoire. Les déportés est un podcast original de France Inter.